on accueille pour cette deuxième conférence Pierre-Antoine Landel. Donc Pierre-Antoine, je vais te laisser te présenter et ensuite dérouler ton argumentaire. Donc à noter que Pierre-Antoine avait prévu un format document à projeter, donc avec des images, mais on s'est dit que c'était quand même bien d'être dehors. Et donc on va mettre le PowerPoint format PDF sur le site internet de la FAUP. Donc c'est FAUPfaupvercors.fr et vous pourrez donc le retrouver très facilement. Pierre-Antoine, je te laisse la main.
Bonjour, ben, merci de m'avoir invité. C'est toujours un bonheur d'être dans le Vercors. Et puis en plus, faire une conférence dehors, vous avez vu ? Là, écoutez le bruit, l'eau qui coule. Et quand vous vous embêtez, vous écoutez l'eau qui coule. Et ça se passe merveilleusement bien. Alors, moi, je suis. Vous avez vu la conférence d'avant. Je suis comme Sabine Girard, mais en pire. J'ai été animateur au syndicat agricole de la FDSEA de la Drôme en 1980. Si vous regardez l'histoire, c'est une époque où la FDSEA est en opposition avec la FNSEA. Et j'ai écrit un livre avec un agriculteur qui s'appelle « Être paysan ensemble » qui raconte ce passage très particulier. Mais c'est important d'avoir la mémoire de ces passages parce que ça montre qu'à certaines époques, les paysans n'ont pas été tous sur le même discours. Ensuite, j'ai été alors technicien territorial, enfin cadre plutôt. J'ai été directeur de l'agriculture, de l'environnement du Conseil général de la Drôme pendant 10 ans, au moment de la mise en place de la décentralisation, de 85 à 95. Donc j'ai eu toute l'expérience de tous les transferts de compétences qu'il y a eu, et plus des politiques volontaristes qu'ont mis en place les départements à cette époque-là. Et puis après, je suis parti dans le Diois. J'ai été directeur de l'intercommunalité du Diois. Pendant 5 ans, mise en place, même chose, mise en place de l'intercommunalité, 52 communes pour 10 000 habitants. Donc c'était vraiment un vrai pari, c'était un vrai bonheur. Et puis après, je suis parti en Ardèche, j'étais directeur de la culture. Donc je suis passé de l'agriculture à la culture. Et puis j'ai eu une chance, comme rarement dans des carrières, j'ai pu m'extraire du milieu des collectivités territoriales, parce que je pense que c'est des métiers qu'il est très difficile de faire pendant toute sa vie. Et j'ai été embauché à l'Université de Grenoble. J'étais enseignant-chercheur pendant 22 ans aussi en géographie aménagement. Donc vous voyez, mon parcours, c'est quand même une chance inouïe de pouvoir mettre en tension ou en interrogation l'expérience et la connaissance. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? On est tous porteurs d'expérience. Le problème de ce portage d'expérience, c'est qu'on peut les raconter pendant des heures. Ça peut être passionnant. Mais malheureusement, ça ne sert à rien. Et qu'entre les deux, pour que ce soit une connaissance, pour que ce soit transmissible, il y a un processus qui se passe entre les deux qui est un peu compliqué, mais qui passe d'abord par le questionnement. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions sur nos pratiques, sur nos expériences. Et puis après, il faut les mettre en contradiction avec les points de vue des autres. Et puis, troisième passage plus difficile aussi, c'est de le formaliser. C'est-à-dire que soit on l'écrit, soit on fait des films, etc. Mais il y a un triple processus qui fait que bien, le passage entre expérience et connaissance, ce n'est pas facile et que ça mérite d'être interrogé. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce passage. Alors, vous verrez que ce n'est pas terrible hein, quand même le résultat. Peut-être qu'il y aura des imprécisions dans l'exposé, etc. Mais je vais essayer de répondre à votre demande de façon la plus simple possible.
Et donc pour repréciser le sujet de cette table ronde, c'était donc l'histoire du canal de la Bourne et de questionner son avenir.
Alors j'avais préparé un beau PowerPoint, hein, donc il sera accessible en ligne et tout ça. Et vous verrez un tableau qui s'appelle une frise chronosystémique où on met des dates dans le temps, mais on les met à différentes échelles. Et alors j'ai regardé l'histoire nationale, l'histoire locale et l'histoire du canal de la Bourne. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux comme les trois se parlent et se répondent et qu'il faut à tout prix travailler ces échelles-là. Alors pour moi, il y a trois dates importantes dans l'histoire ancienne pour l'eau. Il y en a une qui est assez peu connue, hein, c'est le 4 août 1789, l'abolition des privilèges. On croit tous que c'est l'abolition des privilèges du clergé et des nobles, mais pas que. C'est aussi l'abolition de tous les droits à usage locaux. Et ça, on l'a un peu oublié, et que c'est très très important pour la gestion de l'eau. C'est que tous ces pouvoirs, ces accords qui avaient été négociés au niveau local pour l'extraction des matériaux, pour l'usage de l'eau, etc., ben, du jour au lendemain, ils ont été transférés à une puissance nouvelle qui était l'État. Et que, par exemple, dans le domaine de l'eau, il a fallu un siècle de négociations pour qu'il y ait un retour de pouvoir à l'échelle locale via les associations syndicales autorisées, les ASA, qui sont très utilisées dans le domaine de l'eau. Mais vous pourrez remarquer que dans les ASA, il y a toujours un représentant de l'État. Donc, on est dans un changement quoi, assez important pour comprendre la gestion de l'eau, qu'elle a été, à un moment donné, elle a reposé quand même sur des gestions de biens communs locales, puis après, elle a été transférée à l'État. Et que ça a été un mouvement qui a été quand même un peu puissant pour comprendre ce qui s'est passé. La deuxième idée qui est, à mon avis, importante pour comprendre ce qui s'est passé, c'est l'idéologie saint-simonienne au début du 19e. Cette idéologie selon laquelle bien, on passait d'une France qui était un petit peu figée, très rurale, etc., à une France de la mobilité. Et que pour assurer cette mobilité, il fallait que tout se mette à bouger. Et que pour tout se mettre à bouger, ben, il fallait faire des infrastructures, des outils pour le faire. Et c'est comme ça qu'il y a eu les grandes infrastructures telles que les canaux. Et canaux à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale, le canal de Suez, etc. Et il y a eu aussi l'argent, les banques, les financiers, Pereire, etc., qui relèvent de cette même idéologie et dans lesquelles, si vous lisez un petit peu un jour Saint-Simon, etc., vous verrez qu'il conçoit un monde idéal qui est dirigé par des ingénieurs et des financiers, où tous les équilibres passent tout seuls dans des flux extrêmement régulés, où tout se passe bien. Et je pense que si on ne comprend pas cette idéologie-là, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore, on est, je pense, très marqué par cette idéologie-là. Alors si un jour, vous avez l'occasion d'aller voir le Napoléon d'Abel Gance, vous savez ce que c'est ? C'est un film sur Napoléon qui a été remasterisé, hein, 7 heures de visionnement. Et vous verrez un passage extraordinaire. À un moment, Napoléon est emprisonné au moment de la terreur, etc. Il a failli y passer. Et le gardien vient le chercher, etc. Et il dit, mais ne me dérangez pas, qu'est-ce qu'il était en train de faire ? Il était en train de dessiner, d'étudier un plan pour faire un canal pour raccourcir la distance aux Indes et donc le canal de Suez. Vous voyez, c'est déjà à l'époque napoléonienne, comme cette époque, cette idéologie apparaît. Et puis, la troisième... Alors, ça, c'est un troisième mot qui, à mon avis, est beaucoup plus récent, mais qui était déjà en cours à l'époque, même avant, hein, c'est l'extractivisme, mais qui est très, très utilisé aujourd'hui. C'est le fait d'utiliser une ressource d'un territoire sans qu'elle soit transformée sur place, mais sans non plus qu'elle soit maîtrisée par les acteurs du territoire. C'est-à-dire que ce sont des acteurs extérieurs au territoire qui vont en maîtriser l'usage. Et je pense que ces trois repères-là sont importants à rappeler pour comprendre cette histoire de la gouvernance de l'eau. Bon, après, pour notre territoire, il y a des grandes époques mais sur lesquelles on pourra revenir. Mais il y a eu le Second Empire avec l'arrivée de Napoléon III et puis les grands travaux d'aménagement. Et puis la création du Compagnie nationale du Rhône qui ont eu des impacts très importants pour la région. Et puis les lois d'orientation agricole, tout ce qui concerne l'orientation de l'agriculture, donc je pourrais parler après. Pour ce qui est de l'histoire locale, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui aussi faut rappeler, c'est l'histoire de la vallée du Rhône. Hein, aujourd'hui, on est dans le Royan-Vercors, mais la vallée du Rhône, ça a aussi une histoire, et qui est quasiment l'inverse de la vôtre. C'est que la vallée du Rhône, au début du 19e siècle, c'est un milieu hostile. Des terres très très sèches avec des galets, hein, je ne sais pas si vous voyez, alors c'est les terres à pêcher aujourd'hui, etc. Et puis en même temps, des inondations très violentes, puisque le Rhône n'était pas du tout canalisé, et avec des périodes de malaria très intenses. Hein. Il y avait la maladie dans la vallée du Rhône, et ce qui faisait qu'on se retrouvait avec des toutes petites villes, vous voyez, en rond, la forme des villes comme Valence, c'est une ville en rond, Alixan, Chabeuil, etc., où on est plutôt sur la défense, le milieu extérieur était plutôt très hostile, et on avait assez peu d'échanges, si ce n'est quelques parcelles d'agriculture, mais on n'était pas dans un milieu très, très accueillant. Alors qu'ici, en même temps, c'était ce qu'on appelle le plein rural. Le plein rural, en statistiques, ça se décrit très très bien, c'est le moment où la population rurale a été le plus important. Et souvent, ça a été les montagnes, hein, les zones de montagne. Alors moi, je connais particulièrement le Diois, l'Ardèche, etc. C'est dans les années 1850-1860 et c'est des périodes où il y a eu vraiment quasiment des surpopulations avec des conséquences importantes sur les milieux, du surpâturage, le fait qu'il y a eu déforestation, le fait qu'il a fallu mettre en place des grands programmes de lutte contre les inondations et donc mettre en place des programmes de restauration des terrains en montagne qui ont eu des conséquences vraiment très très importantes. Les paysages ont totalement changé entre aujourd'hui et il y a plus d'un siècle sur le Diois ou sur l'Ardèche. Et donc, en vallée du Rhône, une date très importante, c'est le début des aménagements. Et à mon avis, une date très très importante, c'est le début des aménagements du canal de la Bourne, avec les débuts des travaux en 1874 et qui ont généré une maîtrise de l'eau, qui ont été aussi accompagnés par des débuts d'aménagement du Rhône et le fait que le Rhône est devenu très très accueillant, la vallée du Rhône, pour des agriculteurs dont encore aujourd'hui, vous pouvez trouver des traces d'origine dans les montagnes. Alors plutôt, c'est assez paradoxal, moi j'ai toujours vu de l'Ardèche, des Boutières, etc. Un jour, j'étais en réunion publique à Chabeuil, parce que j'ai été élu local aussi. J'étais président d'un SCOT, alors vous voyez ce que c'est. À Chabeuil, il y avait 100 personnes et j'ai demandé sur les 100 personnes combien il y avait au moins un grand-parent ardéchois. Un grand-parent ardéchois, 80%. Ça veut dire que là, on voyait bien les connexions entre la vallée du Rhône et les arrière-pays quoi, de Ardéchois, Diois et d'ici, hein, d'ailleurs, et qui se sont faites grâce à ces aménagements du Rhône. Donc, il faut voir le changement que ça a été, quoi. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, c'est le produit quand même de transitions qui ont déjà eu lieu. Hein, transition entre une France très rurale, un peu stagnante. Alors, pas immobile, attention, il ne faut jamais se tromper. Hein, quand on est en montagne surtout, les gens n'étaient pas immobiles. Hein, il y avait beaucoup de circulation entre les communes de montagne et l'extérieur. Mais quand même, une agriculture assez autarcique, etc. Et puis, cette société d'aujourd'hui, ou ce monde d'aujourd'hui dans lequel tout bouge. Tout bouge, les productions, les informations, l'argent, les capitaux, etc. Et le canal de la Bourne, lui, il a mis longtemps à être conçu. Hein. Les premières réflexions, c'est 1760, donc avant la Révolution. Les premières études, c'est 1811-1813. Donc Napoléon ne devait pas être loin, Napoléon Ier. Après, il y a eu d'autres problèmes. Reprise des débats 1846. Création de la société du canal. Parce qu'à l'époque, l'idéologie, c'est que ce n'était pas l'État qui faisait directement, on faisait des sociétés pour construire et gérer ces canaux. Réalisation des travaux 1874-1884. Et puis, des très grosses difficultés. Au début, c'était une catastrophe, ce canal. Ça fuyait. En plus, ils avaient calculé des prélèvements d'eau qui étaient très supérieurs à ce que le canal pouvait fournir. Et donc, je suis tombé sur des textes dans lesquels il y avait un élu de Roumois qui disait que le canal de la Bourne, c'était un échec retentissant. Et donc, ça a duré jusqu'en 1933, où il y a eu un renouvellement de concession. Et ça a été confié à une création d'un syndicat intercommunal, un syndicat de communes, dans lesquels, on va voir, là, il y a eu de très, très importants investissements, comme d'habitude avec l'agriculture financée par l'État. Après, ça a été les collectivités locales, mais il y a eu des très gros financements de l'État. Et puis, il y a eu des travaux, d'abord, de prise d'eau sur l'Isère. Hein. Aujourd'hui, il y a 4 prises d'eau de le canal de la Bourne sur l'Isère. Il y en a 2 dans le Rhône, mais c'est dû au fait que le périmètre du syndicat a changé. Et aujourd'hui, le canal de la Bourne prélève plus d'eau dans l'Isère que dans la Bourne. Ça, c'est une donnée qu'il faut avoir. Plus mise sous pression du canal. Et puis en 2013, une réforme assez importante de l'intercommunalité qui a fait que tous les syndicats intercommunaux qui géraient l'eau ont été regroupés en un seul syndicat dans la Drôme, qui s'appelle Syndicat d'irrigation drômois, qui est un objet important sur lequel je reviendrai. Voilà quelques éléments historiques. Ça va très, très vite. Hein, mais ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça, ça relève d'idéologie hein, et de représentations qui ont vraiment marqué la façon de penser. Qu'est-ce qu'il faut dire sur la Bourne aussi aujourd'hui ? C'est 10 000 hectares irrigués, c'est 705 exploitations agricoles, c'est de la céréale et de la luzerne, de l'arboriculture, du maïs. Alors faites attention quand même avec les chiffres, le maïs c'est 18% de là seulement. C'est pas uniquement ça, quoi. Mais c'est aussi beaucoup les céréales, parce que l'agriculture de la Drôme, elle a une particularité quand même, c'est que jusque dans les années 90 à peu près, elle reposait sur des exploitations plutôt petites, à moyenne, 18 à 20 hectares, mais qui associaient toujours la polyculture élevage, les céréales et l'élevage, avec une production spécialisée. Et dans les productions spécialisées, il y avait les fruits, le vin, mais aussi et surtout l'aviculture, les élevages hors sol, qui sont nés dans la Drôme sur un système américain. C'est un ingénieur agronome qui est allé en USA puis qui a rapporté ça. C'est le système d'intégration et dans lequel c'était des sociétés plutôt d'alimentation du bétail qui remettaient aux exploitations agricoles les poussins, qui remettaient la farine, l'alimentation, et qui après enlevaient les animaux, reprenaient les animaux. Et moyennant une rémunération, ça s'appelait à façon, c'est-à-dire un fixe par animal produit. L'éleveur était responsable du bâtiment. Il était responsable aussi des maladies, etc. Donc s'il y avait un problème, c'était pour sa pomme. Et c'est un système qui a été quand même très prisé ici parce qu'il allégeait le poids financier, la charge financière des agriculteurs. Et pendant des années, ça a fonctionné comme ça avec des opérateurs importants. Il y avait Pisançon, vous savez, pour les dindes. Il y avait Chabeuil-Valgrain, Crest, Picgrain, enfin toutes des boîtes qui ont été très importantes dans la Drôme. Alors, ce système-là change, mais il y a toujours beaucoup d'aviculture dans la Drôme. Et un dernier point que je voudrais dire sur la situation, c'est quand même une gouvernance qui, à mon avis, pour ce qui concerne le canal de la Bourne, alors pas le système de l'eau du Royan-Vercors, c'est assez intéressant, et c'est assez intéressant de dire, de voir qu'au cours de la table ronde, personne n'a évoqué le syndicat d'irrigation drômois, hein, alors qu'à mon avis, il est très très puissant. Et ce syndicat, il exprime vraiment quelque chose de très important, c'est une gouvernance par l'aval. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le pouvoir. Et ça, je vais essayer de vous l'expliquer par quelques faits. Alors d'abord, par l'histoire, c'était vraiment des notables drômois. On trouve la Société des agriculteurs de la Drôme, c'était vraiment dans le 19e, les notables et tout ça. Le Conseil général et les parlementaires. Après, un syndicat, au moment où le syndicat a été mis en place, il a toujours été contrôlé par des élus de la vallée. Il n'a jamais été contrôlé par quelqu'un du Royan, Pont-en-Royan, Saint-Nazaire-en-Royan. Pont-en-Royan n'y est pas. Donc c'est déjà assez paradoxal. Mais
la prise d'eau principale se fait à Aubrive-en-Royan.
Et alors, on peut voir une caricature. Pendant 42 ans, le président, ça a été Henri Durand, conseiller général de Bourg-de-Péage, maire de Bourg-de-Péage, et c'était son pouvoir, quoi. Le conseil général de la Drôme, il était un petit peu socialiste. Enfin, c'était Maurice Pic et lui, il était à droite. Et il avait son pouvoir avec le syndicat de la Bourne. Et vraiment, c'était d'une puissance extraordinaire. Vraiment très, très fort. Une dépendance très, très forte aux subventions publiques. Alors d'abord l'État, mais aussi, ça a été pendant les années, pendant que j'ai travaillé, l'Union européenne, la région, le département, l'agence de l'eau aujourd'hui, et c'est régulièrement plus de 80% de subventions. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus de 80% de subventions. Parce que souvent, il y a des subventions en capital qu'on voit, mais il y a des choses qu'on voit moins. Il y a des dotations pour les aides aux annuités d'emprunt, qui sont moins visibles, mais qui peuvent exister. Les ventes d'eau, c'est 70% des recettes, mais c'est aussi la vente d'eau pour l'électricité. Alors ça, c'est le jackpot, hein.
9% de vente d'eau pour l'électricité à Aubrive-en-Royan.
Et puis à Pisançon, si vous voyez, il y a une grosse chute d'eau qui est très puissante, hein, qui permet de vendre de l'eau. Et puis quelque chose qui est très peu connu, c'est, et sur lequel je vous incite à regarder, à aller voir un peu ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'énergie réservée. Hein, c'est un dispositif qui fait que quand il y a un opérateur de l'eau, de l'énergie hydraulique, il est prévu qu'il rétrocède à des acteurs de l'eau une partie de l'électricité produite par les concessions hydroélectriques. C'est-à-dire qu'il y a une partie des recettes. Alors, notre collègue de EDF pourra nous confirmer, hein, qui est rétrocédée. Alors là, dans le département de la Drôme, c'est au Conseil général de la Drôme, qui après reverse à des bénéficiaires. Alors ça fait partie des problèmes qui ont été évoqués. Il faut absolument travailler cette question-là. Si vous voulez comprendre comment ça marche, il faut demander au Conseil général, tout ça, et c'est la boîte noire. Hein. C'est vraiment très, très compliqué. Mais toujours est-il que dans les recettes du syndicat d'irrigation drômois, qu'est-ce qu'on trouve ? 6% des recettes qui viennent de rétrocession des contingents d'énergie réservés. C'est-à-dire qu'ils ont négocié avec le conseil général, c'est normal, le président était conseiller général, il était puissant, tout ça, ils ont négocié une rétrocession probablement de ce qu'ils donnaient. D'accord ? Eh bien ça c'est important que vous le sachiez. Pourquoi ? Parce que normalement, cet argent-là, il est un peu pour vous. Il est un peu pour... on rétrocède aux acteurs locaux. Eh bien, si vous voulez un bras de levier, c'en est un. Et comme quoi, des fois, l'information, c'est important. Et donc, peu de retombées en amont. J'ai toujours du mal, moi. Alors, probablement que les retombées de EDF sont plus... alors, je ne sais pas, c'est à vous de dire, hein, plus directes. Alors, les contingents d'énergie réservée vont probablement aux communes du Royan. Enfin, ça, il faudrait regarder du Vercors. Mais sans ça, les impacts du canal de la Bourne sur le Royan-Vercors, c'est quand même assez négatif, alors qu'ils prélèvent une quantité d'eau assez importante. Hein, 7 mètres cubes par seconde. 7 mètres cubes par seconde.
À Aubrive.
Et d'ailleurs, c'est tout un équilibre, ce prélèvement. Il y a des négociations, il y a eu des négociations très dures entre EDF et le canal de la Bourne pour que l'EDF lâche de l'eau au moment des besoins d'irrigation, qui ne correspondent pas nécessairement au moment où EDF a besoin de l'eau. Et ça, tout ça, c'est des équilibres politiques qui se font au niveau local, mais sans que vous soyez au courant. Mais ça n'empêche que ça existe. Et ça va, à mon avis, impacter très, très fortement l'avenir. Pour les négociations à venir dans des situations de tension, ça va être très, très fort. Alors, bon, j'avais fait une diapositive sur la montée en puissance des cadres de concertation extraterritoriaux. Bon, il y en a deux ici. Il y en a un qui a été décrit tout à l'heure, le CIMBI. Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère. Quand même, il y a une chose qui n'a pas été précisée tout à l'heure, c'est que ce syndicat, il n'est pas du tout Royan-Vercors. Ici, c'est une unité territoriale de syndicats. Mais c'est un syndicat qui recouvre l'ensemble du département de l'Isère, une partie de la Savoie et une toute petite partie de la Drôme. Mais c'est quand même eux qui travaillent sur la prévention des crues et l'aménagement des rivières, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est probablement des syndicats avec des gouvernances très, très éloignées. Alors, ce qui ressort de l'exposé tout à l'heure, c'est que pour l'instant, ils n'avaient pas beaucoup de projets sur le Royan-Vercors. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y en avait, ben, la décision ne serait pas prise ici, hein. Ça sera pris. Alors, il y a une bagarre très passionnante à étudier. C'est la bagarre entre le département de l'Isère et le département de la Savoie pour prendre le contrôle du syndicat, qui n'est toujours pas réglé, d'ailleurs. Alors, après, ça, c'est la première partie sur l'état des lieux. Donc, en gros, la nécessité de connaître l'histoire, la nécessité de connaître les acteurs et parmi les acteurs, de connaître quand même le syndicat d'irrigation drômois. Et si vous allez sur les sites, quand même, vous pouvez trouver leur budget. Vous pouvez trouver des choses assez intéressantes, mais vous ne pouvez pas tout trouver. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sur la situation actuelle, elle est prospective. Ce qui est intéressant, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est que ce syndicat, à la demande du schéma d'aménagement de gestion des eaux, pas de la Drôme, mais de Valence, enfin de la plaine de Valence, qui est un très, très gros sage de tout le nord Drôme, etc., qui concerne toute la nappe phréatique du nord de la Drôme, a demandé au syndicat d'irrigation drômois de mettre en place une prospective sur ce qui allait se passer dans les années qui viennent. C'est une prospective en plusieurs temps et dont les résultats de la première phase a été mise en ligne. Donc là, vous pouvez y aller. Et par contre, les phases suivantes, c'est la prospective. Alors là, c'est plutôt secret. Je sais que l'étude a été remise, tout ça, mais elle n'est pas publique pour l'instant. Donc là, il va falloir... Alors, c'est marrant parce qu'ils ont des données beaucoup plus précises que celles d'avant. Hein, c'est marrant. Alors pour eux, d'ici 2050, il n'y a aucun problème. Ça confirme ce que disaient nos interlocuteurs précédents. Par contre, ça, il confirme le décalage dans le temps. Par exemple, le fait qu'il y aura beaucoup plus de précipitations avant le 1er juin. Et manque de peau, c'est surtout à partir du 1er juin qu'il y a besoin d'eau pour l'aval. Donc ça, c'est quand même un problème. Et le deuxième point, c'est qu'à l'horizon 2070, ils peuvent vous donner un chiffre. C'est moins 17%. La fourniture de l'eau par la Bourne, ça sera moins 17%. Ça, c'est une donnée bon, qui est connue. Alors après, tout le reste va impacter. Mais à mon avis, quand même, ce qu'il faut voir, c'est que pendant ce temps-là, il se passe des choses ailleurs. Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai été amené aussi à m'y intéresser. Quand même, il y a le problème des stations de sport d'hiver, et en particulier de Villard-de-Lans. La première installation d'enneigement artificiel, c'est 1982. En 2009, il y avait 250 enneigeurs. Ça prélevait 171 000 mètres cubes d'eau par an. Aujourd'hui, il y a 400 enneigeurs. 400 enneigeurs. Et alors, je vous donne un chiffre toujours à la gloire de Vauquier, le champion de l'environnement. En 8 ans, la région Auvergne-Rhône-Alpes a financé les enneigeurs à hauteur de 80 millions d'euros. 80 millions d'euros. Vous rendez compte l'argent qu'il y aurait pour faire une autre agriculture avec ça ? Bon. Alors, je terminerai mon exposé par un exercice de prospective. Alors, comme d'habitude, c'est complètement aléatoire, hein, puisque, pour rappeler ce qui a été dit avant, on est dans un contexte d'incertitude totale. Écologique, technologique, géopolitique, etc. On est dans un régime de transformation, c'est-à-dire de passage d'un système à un autre système. Tiens, je vais quand même vous faire une petite réflexion quand même scientifique. Je ne sais pas si vous avez entendu, cet été, il y avait une merveilleuse émission sur un mathématicien qui s'appelait Grothendieck, qui a été un des plus grands mathématiciens du siècle et qui, à la fin de sa vie, a eu une rupture totale. C'est devenu un des premiers écologistes assez engagés. Et puis, il a fini dans un isolement un petit peu d'autonomie hein, de les Pyrénées. Et il disait quelque chose de très important. Il a beaucoup travaillé sur la géométrie dans l'espace, etc. Et il disait, ce qui est important dans l'espace, ce n'est pas de caractériser les éléments qui composent cet espace, mais c'est de caractériser les liens qu'ils ont entre eux. Et que ça, pour moi, ça a été très, très utile pour comprendre la géographie. La géographie, ce n'est pas uniquement de comprendre ce qui compose l'espace, la rivière, la montagne, les pentes, etc. Mais c'est de comprendre les liens qu'il y a entre eux. Vous voyez là, aujourd'hui, l'exposé, les liens qu'il y a entre ici et la vallée du Rhône. Comme ils sont puissants, comme ils sont forts, et comme, malheureusement, on les voit peu, etc. Et qu'il y a une hypothèse quand même qui apparaît assez fortement, c'est que la transition, elle ne passera que par une transformation des relations entre les éléments. Et vous avez vu comme le débat d'avant montrait aussi des nouvelles formes de relations qui étaient à travailler, formes de relations, implications citoyennes, etc., place des lobbies, place de l'État, etc. Et que tout ça, il faut se dire qu'il n'y aura pas de transition sans transformation de ces relations. Alors, trois scénarios complètement caricaturaux, hein, puisque moi, je n'ai aucune compétence pour faire ça. Et quand j'étais prof, j'expliquais aux étudiants que j'étais à l'Institut de géographie alpine, donc c'était facile. Quand on est au pied d'un col, on sait qu'il faut le passer, on n'y échappe pas, on sait qu'il faut passer le col, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Et bien, c'est exactement la situation dans laquelle on est. Hein. On ne sait pas du tout où on va. C'est un contexte d'incertitude assez totale. Alors, premier scénario, c'est le temps des fractures. C'est qu'on assiste actuellement à des fracturations qui sont quand même assez fortes. Hein. Vous avez vu dans l'exposé d'avant, avec l'agriculture productiviste, quand même le fait d'un modèle dans lequel bon, on a tendance à évacuer le problème est plus grave. On n'a pas capacité à penser le changement des modèles de production. Ce qui fait que, alors je n'ai pas eu accès au rapport, mais j'ai eu des échos, etc. Pour le syndicat d'irrigation de la Drôme, les projections de besoins d'eau à l'horizon 2050, en plus de ceux qui sont actuellement, c'est entre plus 25 et plus 30 %. D'accord ? Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans un modèle de changement, etc. On est dans un modèle de continuité de ce qui se passe. Et on va utiliser tous les moyens techniques possibles pour l'accompagner. On va, par exemple, mettre en place des bassines. Alors, ça, c'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a déjà commencé. Hein. Dans la Drôme, il y a une réserve qui s'appelle les Juanons, à la hauteur de la Baume Cornillane, qui fonctionne, qui fait 800 000 mètres cubes, qui fonctionne depuis plusieurs années, qui fonctionne d'ailleurs pas trop mal, hein, qui sert d'appoint, quoi, pendant, et qui a servi pour renforcer un petit peu l'alimentation en eau de Crénor, le syndicat qui est au nord de... Oui, oui. Donc ça, c'est quand même des solutions qui ne sont pas à négliger, mais le problème, c'est que les prospectives, là, ce sont des bassines de 20 hectares, pas du tout comme les Juanons, hein, pas du tout en montagne. Là, les Juanons, c'est dans la montagne. Là, c'est des bassines de plein champ. Et 20 hectares, c'est pas du tout une paille, et puis ça a une hauteur. Mais l'idée, c'est de les remplir avant le 1er juin, puisqu'il y aura de l'eau, et que DF n'aura pas trop besoin, et après de les vider pendant l'été. Et puis, il en faut quand même quelques-unes. Hein. Et vous avez le même modèle qui apparaît avec le tourisme, avec Tony Parker à Villard-de-Lans. C'est assez marrant. Hein, avec, on construit carrément un village hôtelier très haut de gamme, etc., à la côte 2000. Et puis, on ne tient pas du tout compte du réchauffement climatique. L'eau, il y en aura tant qu'on voudra, etc. On fait des spas et tout ça. Et puis, le modèle continue. Ça, c'est le premier modèle. Et puis, à côté, on voit apparaître une multiplication d'innovations dans tous les sens. Alors là, la Drôme, en particulier le Vercors, le Royan, tout ça, c'est un vrai foisonnement. Je vous invite à aller voir un site, si jamais ça vous intéresse un jour, qui s'appelle Transformons. C'est un travail qu'on a fait avec des collègues de Grenoble pour faire un inventaire de ce qu'on appelle les innovations sociales en montagne. Et vous verrez des cartes. Et alors, bien sûr, les champions, c'est le Diois. Mais il y en a quelques-unes dans le Vercors, tout ça. Puis il y a des blancs aussi. Il y a des blancs, alors, la Vallée du Rhône et tout ça. Mais tu vois-t-il que tout ça, ça donne deux choses. Ça donne des lieux et des réseaux. Des lieux, bon, qui sont... Définition d'un lieu, c'est qu'il est localisé, quoi. Il est localisé. Il a plus ou moins des rapports avec l'extérieur, mais il n'a pas tellement capacité à transformer la trajectoire du territoire. Mais ce qu'on voit apparaître, c'est qu'avec ces lieux, il y a des réseaux. Et par exemple, dans la Drôme, il y en a un très, très intéressant que vous avez déjà évoqué à la première partie, c'est les fermes paysannes et sauvages. C'est parti de Montélier, et puis maintenant, il y a un réseau avec une vingtaine d'exploitations. Un réseau, ça a toujours deux caractéristiques. Quand vous regardez un réseau, il y a une forme d'un réseau, et puis il y a ses fonctions. Et là, le principe du réseau, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit à plus d'une heure de Valence, quoi. Mais si vous y allez... Fermes paysannes et sauvages, vous verrez un réseau qui fait de la formation, qui fait de l'information, qui fait de la recherche, qui fait des propositions. Et puis, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, qui commence à infuser sur le milieu. Puisque la communauté d'agglos de Valence, dont on ne peut pas dire que ce soit les plus progressistes qui soient, accepte de mettre en place une procédure expérimentale. Et ça, d'ailleurs, une petite clé, ça se passe souvent par les techniciens. Les élus, souvent, ils s'en foutent. Du moment que ça fait une bonne communication, ça ne les dérange pas. Et souvent, ça se passe par les techniciens. Et ça, c'est quelque chose aussi à connaître. Hein, quand vous voulez approcher un système politique local, il ne faut jamais oublier que dans ces systèmes, il y a des techniciens. Et que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, on a ces juxtapositions de deux mondes. Hein, un monde du monde d'avant qui continue, du monde d'après qui... tout ça... et qui ont des relations extrêmement complexes, mais dans lesquelles, parfois, il y a ce qu'on appelle de l'hybridation, de la reliance, des informations, des connaissances, des choses qui font qu'il y a quand même des débuts de changement. Scénario 2, alors ça c'est le rêve total, mais c'est quand même un scénario qu'il ne faut pas oublier quand on travaille dans l'agriculture, c'est la repaysanisation de l'agriculture. Il y a même eu un livre là-dessus qui a été écrit, et dans lequel on voit très clairement apparaître des pistes de travail sur ces questions-là. Alors, elles ont presque toutes été citées avant, le réseau des fermes paysannes et sauvages, l'agroécologie régénérative pour l'eau. Et là, il y a maintenant un haut lieu qui est en train de se former. Mais il y a les lieux et les hauts lieux. Et le haut lieu en question, il est très, très marrant. C'est l'abbaye de Solan. C'est un monastère orthodoxe tenu par des femmes dans le Gard et qui se visite. Hein. Ça, je vous invite à y aller. Hein. C'est très, très beau. Et ils font de l'agroécologie régénérative depuis des années. Et bon, alors, ils diront que ça marche, mais c'est vraiment des lieux très importants. Et à mon avis, un troisième acteur qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'il n'est pas loin d'ici, c'est l'Atelier Paysan, avec toute une réflexion sur la mécanisation en agriculture. C'est-à-dire que dans la modernisation de l'agriculture, il y a trois termes importants. C'est mécanisation, intensification, spécialisation, et qu'on oublie toujours l'impact qu'a eu la mécanisation. Mécanisation sur, bon, bien sûr, l'allègement de la charge de travail, la facilitation du travail, mais aussi la culture. Et le fait que tout ça, ça a ancré un système très profondément et que l'Atelier Paysan ouvre des réflexions extrêmement intéressantes pour reprendre. Alors, vous verrez, dans le diaporama, je vous ai mis des références bibliographiques. Hein, il y a quatre petits livres qui sont intéressants à connaître pour aborder ça. Mais ça, c'est un scénario complètement utopique, malheureusement, tout ça. Et puis le troisième, je l'appelle le temps des liens. Et là aussi, c'est compliqué, mais... Alors ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est une fracture. Hein. C'est une fracture, les motos. D'un côté, les pro-motos, de l'autre côté, les anti-motos. Et donc, je siège dans la commission départementale de la nature et des sites paysages, et je dis au préfet, mais regardez, au lieu de s'occuper du paysage, on devrait s'occuper des bruits. Vous avez déjà été dans le Vercors, je dis, et il m'a dit, mais non, mais maintenant on est sauvé, il va y avoir le contrôle technique sur les motos. Alors, je vais l'éviter. Alors, ça, c'est les fractures. Et le problème, c'est comment recréer du lien avec des situations comme celle-là. Et là, c'est vrai que il y a des petites choses qui sont en train de se passer, mais qui sont, à mon avis, assez intéressantes. Bien sûr, il y a le rôle de la FOP. Je ne veux pas faire de la pub, mais c'est quand même assez intéressant. Je vais peut-être me mettre en contrepartie de ce que vous faites, mais moi, j'ai observé un petit peu de l'extérieur les sublimes routes. Et moi, je constate, mais vous l'avez vu comme moi, hein, qu'au bout de quelques années, il y a trois projets qui ont été faits. Que bon, celui qui a été fait, j'ai été visiter l'école de la bataille l'autre jour, c'est pas terrible, enfin bon, ça reste à prouver, quoi. Mais que les autres n'ont pas été faits et qu'ils ont été chercher deux autres nouveaux projets tout à fait intéressants. Le pont du tramway, je sais pas si vous voyez, entre Saint-Laurent et Saint-Jean, et qui est un monument historique, hein, parce que c'est de l'architecture en fer du 19e siècle qui avait été mis en évidence par un collectif d'habitants locaux, etc. Le Conseil général a accepté de le refaire l'an prochain, 2025, pour faire passer la piste cyclable. Et il l'intègre, alors bien sûr, c'était à condition, dans les sublimes routes. Mais ça, à mon avis, on n'a rien à foutre. Du moment qu'ils le font, c'est bien. Et donc, l'autre projet, ils sont allés le chercher dans le Lucandiwa, le CLAPS. Vous connaissez le CLAPS, c'est pas du tout dans le Vercors, hein. C'est pas du tout les routes sublimes du Vercors. Hein. Mais quand même, si vous connaissez le site, c'était un site où les voitures se garaient en dessous de la falaise. Donc, ce qui faisait que ça perdait tout son charme, etc. Maintenant, les voitures vont être évacuées du site. Elles vont être positionnées pour quelques-unes, c'est très, très limité, le long de la route. Mais surtout, il va y avoir un parking principal à plus de 500 mètres. Il va falloir monter en haut. Il va falloir voir le sous de la Drôme. Hein. Vous vous rendez compte l'effort que ça va être, tout ça. Et ça, c'est les sublimes routes recyclées. Et ça, c'est marrant. C'est marrant parce que ça vient de ce que vous avez fait, à mon avis. Quand même, ça a été assez marquant, même s'ils l'ont perçu comme étant violent. Ça a mis les élus en réflexion, au moins ceux du Vercors. Je ne sais pas, ceux du Royan, peut-être moins, mais bon. Ça a généré aussi, de la part du technicien, de l'attention. Je ne sais pas si vous travaillez avec des techniciens, c'est marrant. Des fois, ils portent attention à ce que vous dites. Et puis après, on s'aperçoit que ça porte fruit. Et puis, il y a des associations aussi qui sont mises. Donc, c'est pour ça que, dans certains cas, il y a de la discussion. Je prends un autre exemple, c'est Tony Parker, je ne sais pas si vous êtes au courant, le collectif citoyen du Vercors, Vercors citoyen, a mis en place depuis le début de l'année ce qu'ils appellent des écoutes citoyennes. C'est-à-dire que pendant l'année, il y a des adhérents du collectif, etc., qui vont écouter des habitants du Vercors, qui sont d'accord pour parler pendant une heure et demie. Ils recueillent un discours sur la façon dont ils voient le Vercors aujourd'hui, mais surtout la façon dont ils voient dans le futur. Et puis après, il y aura des restitutions, des réunions publiques de restitution. Et puis après, il y aura des assises du Vercors, la transition en Vercors en 2025. Façon à passer d'une situation où on est contre un projet à une situation où on est pour un projet de territoire. et ce qui, à mon avis, change la posture politique. Change la posture politique parce que d'abord, ça permet de préparer les élections suivantes. C'est vrai qu'il ne faut pas nier que des fois, le militantisme, ça passe par la candidature aux élections. Mais c'est aussi pour penser à un autre projet et de ce projet soit construit, etc. Et c'est là qu'on voit des nouvelles scènes se former, qui sont des scènes citoyennes, etc., mais qui, de temps à autre, peuvent rencontrer d'autres scènes, comme le parc naturel régional, éventuellement, malgré tous les problèmes de gouvernance posés par la majorité régionale actuelle, qui sont les intercommunalités du Vercors, malgré tous les problèmes posés par le fait que l'intercommunalité centrale n'a pas pu être mise en place. On voit apparaître ces scènes de discussion dans lesquelles il y a peut-être la possibilité d'un avenir en commun. Et puis à la fin, je vous ai mis une œuvre d'art d'un artiste italien qui a pensé la transition, mais ça, vous découvrirez dans le PowerPoint. Et puis, je ne peux pas finir par une pensée d'André Gortz, qui quand même, faut rappeler que des fois, on a eu des penseurs au 19e, mais on en a aussi au 20e qui sont vraiment des penseurs inspirants. Et écoutez ce qu'il disait sur la sobriété en 1974. En 1974, il y a 50 ans. La société engendre plus de besoins insatisfaits qu'elle n'en comble. Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul mérite d'être produit ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne. Nous pouvons être plus heureux avec moins d'opulence, car dans une société sans privilèges, il n'y a pas de pauvres. André Gortz. Voilà.
Bah, merci beaucoup Pierre-Antoine pour cet exposé et cette belle fin. Je pense qu'on peut ouvrir des discussions avec le public. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des réflexions à partager ou des questions. Ouais, Antoine ?
Bonjour.
Bonjour.
Antoine Molina. Je suis un ancien élu de Châtelus et je me suis occupé de la pêche pendant longtemps. Et je reviens sur l'idée que le canal entretient du mystère autour de ses actions, de ses documents. Je ne partage pas du tout ce point de vue parce que pour avoir été en échange avec eux souvent, dans le cadre des échanges qu'on avait avec les pêcheurs du coin, et puis des élus dans le cadre du contrat de rivière, j'ai pas eu le sentiment qu'on nous cachait quelque chose. Au contraire, j'avais même la sensation qu'on avait affaire à des gens très volontaires dans la collaboration et la construction de quelque chose de commun. Et lorsque j'ai demandé des documents, et notamment les anciens arrêtés préfectoraux qui ont donné lieu à la naissance du canal, qui date du 19e siècle, on ne m'a pas fait d'histoire, on me les a envoyés tels que. Sauf peut-être un petit bémol ces derniers temps, j'ai demandé à Alain Galis de nous envoyer les résultats de sauvetage des pêches électriques du canal de la Bourne. Quand ils vident le canal, il y a des poissons qui restent prisonniers et ils ont obligation maintenant par la DDT de les sortir puis de les remettre ailleurs. Bref. Et j'ai demandé à Alain Galis de me passer ça et. Oh, ça l'embêta, il m'a dit de me retourner vers la DTT. Et la DTT a pinaillé, et puis ils ne m'ont pas donné non plus. Alors je suis revenu vers Alain Galis. Il m'a dit, oh, je ne sais pas moi qui l'ai fait, ça m'embête. Je n'ai pas insisté parce que je sais que ça l'embêtait, mais je sais que comme c'est un syndicat intercommunal, et à ce titre-là, il doit diffuser tous les documents administratifs qu'il possède, j'aurais pu les exiger par la CADA, par le centre d'accès aux documents administratifs. Oui. Hein oui. Et je n'ai pas fait ça parce que je n'ai pas vraiment légitimité à les demandes. Maintenant, je suis plus élu, je ne suis plus dans le monde de la pêche officiellement, donc je n'avais pas vraiment légitimité à le faire. Et puis voilà. C'était simplement pour dire que je n'ai pas le sentiment qu'on nous cachait des choses. Voilà. Oui, oui.
Alors, je réponds quand même pour dire que c'est vrai qu'il y a toujours un aspect un peu théâtral dans l'exposé. Mais que sur un point précis, je vous invite à essayer de comprendre comment ça se passe, c'est le contingent d'énergie réservé. Comment est-ce qu'il est réparti par le Conseil général auprès des communes qui en sont bénéficiaires? Qui est-ce qui décide et comment ça se passe?
Par contre, pour ce qui concerne le CID, il y a un point qui devient problématique. Il concerne le mode de répartition des volumes d'eau entre les irrigants.
J'avais peut-être une question à poser. Les concessions qui vont être remises en vente du canal de la Bourne, on était tombé sur des documents là-dessus.
Oui, c'est une concession.
C'est l'État qui va remettre en vente des concessions.
Non, il va rediscuter la concession. Alors pour le canal de la Bourne, un manque de peau, je ne l'ai pas, mais c'est dans 10 ou 20 ans. Mais ça, je pourrais vous le retrouver, ça.
sans vouloir répondre à la place du canal, c'est quand même une concession du ministère de l'Agriculture. Donc c'est le ministère de l'Agriculture qui a payé, qui est propriété en fait de la, du canal de la Bourne, pour une concession jusqu'en 2032. La question qui se pose, c'est est-ce que, je crois que le ministère de l'Agriculture, a confirmé peut-être par le SID, avait proposé de rétrocéder pour 1 euro symbolique la concession au syndicat. Parce qu'il y a énormément de travaux. Donc finalement, voilà, c'était une des pistes pour, à la fin de la concession, est-ce que le ministère de l'Agriculture le récupère et le propose à quelqu'un d'autre, ou il proposait de le rétrocéder pour 1 euro symbolique. Ça avait été une des pistes. Je ne sais pas si c'est confirmé. En tout cas, c'est 2032.
Alors, il y a quand même des choses assez intéressantes. Quand même. C'est bien que vous soyez là, parce qu'il se prépare des discussions qui ne vont quand même pas être simples. Hein. C'est que vous avez vu, le canal de la Bourne prélève 7 mètres cubes d'eau par seconde dans la Bourne. Puis après, plus de 8,8 dans l'Isère. Un des scénarios possibles, ça serait l'arrêt du pompage dans la Bourne. Ce qui immédiatement fait que, dans ce cas-là, ils vont tout pomper dans l'Isère. Et dans ce cas-là, il y a un gros problème avec EDF, qui est le barrage en dessous, Pisançon en particulier, et qui fait que EDF va probablement refuser ou discuter. Donc ça fait que, dans les hypothèses qui sont en cours de discussion, l'hypothèse d'une destruction, enfin d'un arrêt des équipements de prélèvement dans la Bourne est quand même assez compliqué à envisager. C'est-à-dire qu'on peut penser que, bien que l'eau de la Bourne aille dans l'Isère, etc., l'intérêt du canal, ça sera de continuer à prélever dans la Bourne, parce que ça lui évite de négocier des prélèvements supplémentaires dans l'Isère.
C'est en partie cela. Je vais faire en deux temps la réponse. Non, mais c'est intéressant. C'est un vrai sujet. Hein. C'est du partage de l'eau entre deux usagers principaux, c'est entre l'agriculture et l'énergie. En fait, actuellement, si je reviens sur Choranche, nous avons une convention avec le canal de la Bourne qui nous oblige à, du 15 avril au 15 septembre, à donner de l'eau au canal de la Bourne, puisqu'il est antérieur à nous. Ben oui, il était là avant nous, puisque je vous ai dit qu'effectivement, l'aménagement de Choranche date des années 50, 1950, et pas 1850. Ils étaient là avant nous, ça fait un petit peu... Donc, et c'est pour ça qu'effectivement, il y a cet usage prioritaire. Sur l'Isère, nous avons des concessions aussi du ministère de l'Énergie. Et nous avons un contrat qu'on doit honorer à l'État. La force hydraulique est dite d'intérêt général sur une rivière domaniale. Cette force d'intérêt général appartient à l'État et elle confie à un opérateur la mission de la valoriser sous forme d'énergie. Cet opérateur, c'est EDF. Il l'a sous forme de contrat. Nous avons une obligation à produire de l'énergie. Dans ce contrat, il y a un certain nombre de retours à l'État qui sont une redevance, c'est-à-dire qu'une partie des recettes va au propriétaire, normal. Une partie des recettes va, ce qu'on appelle la fiscalité locale, aux collectivités. Et une partie de l'énergie, transformée sous forme de recettes, va au département. Et il y a un article du cahier des charges qui dit « Il y a aussi une partie de l'eau qui peut être réservée pour d'autres usages, dont l'agriculture. » Et il y a un article qui dit « Voilà, il y a tant de litres par seconde pendant la période d'irrigation qui peut aller à l'irrigation. » Ça, c'est prévu. Et si on dépasse cette quantité, le concessionnaire énergie pourra demander d'être indemnisé puisque c'est de l'eau qui n'était pas prévue au contrat, qui est au-dessus, qui ne peut pas turbiner. Donc effectivement, le sujet va venir. Si jamais le canal de la Bourne ne prélève plus dans la Bourne, il va vouloir prélever plus dans l'Isère, il sera capable de le faire jusqu'à la quantité qui est déjà inscrite. Donc la question va se situer, je l'ai déjà dit, et je le redis, ouvertement, c'est pas une question de quantité d'eau. L'eau, elle est là, dans l'Isère. C'est à quel prix ? Est-ce qu'il faut valoriser mieux le mètre cube sous forme alimentaire ou sous forme énergétique ? Ça sera le débat.
Et du coup, je me permets de vous réinterpeller, mais sur ce sujet qui a été... que notre conférencier a mis en lumière, là, sur ces enjeux de... Comment, d'astreinte, de contrainte... Non, c'était comment le truc des contraintes énergétiques, ce qui est reversé ?
Ah, c'est la...
Comment t'as appelé ça?
L'énergie réservée. Contingents d'énergie réservée.
Voilà, les contingents d'énergie réservée, depuis le point de vue d'EDF, c'est quoi? Enfin, comment vous...
Ils sont obligés.
En fait, c'est très simple. C'est très simple, c'est que... Voilà. Je refais un petit peu de recul. Quand vous construisez un barrage, ça coûte très cher. D'accord? Donc, l'État n'est pas un industriel. Donc, il confie à une société, à l'époque privée, les sociétés forces motrices du Vercors, etc., le soin de prendre le risque d'investir. C'est un risque en capital. Donc, il faut retrouver le capital, il faut investir. Donc, c'est comme tout projet industriel. Vous cherchez des capitaux, vous les dépensez dans la construction, et puis vous avez un business plan, plutôt un plan économique pour vous retrouver. Donc, vous devez ensuite... Donc, il y a l'amortissement, vous aurez les recettes, la vente, les charges d'entretien, d'exploitation, de salaire, tout ça, vous faites... Et donc, ça s'équilibre sur une certaine durée. Sauf que les investissements du départ étant tels que le contrat que donne l'État à un industriel, pour qu'il y voit un peu plus clair, c'est 75 ans. D'accord ? Donc, il y a une durée de contrat de concession. Mais dans l'équation économique, l'État dit, attendez, moi, l'intérêt, c'est que j'ai des recettes. Donc, on a, dans le cahier des charges, des redevances, on doit payer à l'État, on doit payer aux collectivités, et il y a cette fameuse énergie réservée. À l'époque, c'était pour dire, ben voilà, une partie de la richesse produite dans le territoire doit y retourner. Et c'était de l'énergie à l'époque. C'est qu'ils avaient le droit, on donnait de l'énergie, ou sur le compteur, c'était gratuit, par exemple. Bon, c'était compliqué, parce qu'après, il y a eu... Donc du coup, on a transformé cette énergie réservée en une somme, en un équivalent monétaire, et... Cette attribution, ensuite, c'était la DREAL, l'État, qui le faisait. Loi de décentralisation, etc., a donc délégué cette somme au département. Donc nous, sur chaque aménagement, on a une partie de nos recettes qui est reversée au département parce qu'on est obligé de le faire. Et après, c'est au département de répartir. Voilà.
Et c'est là qu'il y a du travail à faire.
Ça n'est plus à notre main, hein. Très honnêtement. Hein. Ça n'est plus à notre main. Voilà.
Et une dernière question. Moi, je suis comme Pierre-Antoine. Moi, je suis quand même très surprise que ça soit une gestion uniquement par Laval, quoi. C'est un syndicat intercommunal, le CID. Mais c'est que des communes de Laval. Ça me paraît très normal que ce soit une gestion par l'amont et par l'aval, et pas simplement Pont-en-Royan ou Auberive, quoi. Les communes du Vercors, quoi, parce que la Bourne, c'est l'eau du Vercors, quoi. C'est l'eau qui vient de tout le Vercors. Alors, voilà.
Ce que ça pourrait faire très bien une synthèse de tous les débats de l'après-midi, c'est que ce à quoi on est en train d'assister, c'est que dans l'histoire a fait que dans le Vercors, l'eau, c'était pas un problème. Et que les acteurs de Laval s'en sont emparés et s'en sont tellement bien servis que maintenant ils contrôlent tout à Laval. Et qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent et que c'est là le moment où les acteurs de l'amont auront intérêt à réfléchir pour s'organiser et pourquoi pas une clé Royan-Vercors. Il y a Sabine qui peut aussi.
Et regardez ce qui est en train de se passer. Par exemple, dans la Drôme, il est possible que la solution de demain, elle se trouve dans l'amont. Si on doit, sur la question de l'hydratation des territoires, l'essentiel de l'action pour préserver un débit en aval se joue peut-être dans l'amont. Donc les renversements de pouvoir vont devoir se faire.
Eh ben, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup Pierre-Antoine pour ta présentation. Donc on le rappelle, on mettra le petit diaporama de Pierre-Antoine sur le site internet de la FAUP, faupvercors.fr. Merci beaucoup. Et donc pour rappel, juste après, donc ce soir, il y a des concerts à Saint-Nazaire, sur la plage devant la salle des fêtes. Il y a deux concerts, une petite buvette, et ça va danser, et ça va manger des super pizzas. C'est la dernière fois qu'on peut manger les pizzas de super chauffour, et ça va être délicieux. Merci beaucoup à toutes et tous.